on a pensé à une liste de thématiques pour l'année, mais si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, on peut tout à fait envisager de programmer cela pour le premier semestre 2016, par exemple. Donc si vous avez des sujets qui vous titillent, n'hésitez pas à nous les communiquer à la fin de la séance, on fera au mieux, on prendra ceux qui nous intéressent aussi, voilà, comme d'habitude. Voilà, et donc maintenant on se lance dans l'aspect miraculeux de la chose, et je laisse la parole à Marc pour commencer avec le biblique.
Alors un peu de biblique, donc je vous passe une petite feuille, vous pouvez en prendre une chacun si vous voulez. Alors c'est vrai que, il y a du miracle dans la Bible, c'est clair. Aujourd'hui, j'allais dire, on croit plus malgré les miracles que grâce aux miracles, bien que je pense qu'on le verra un petit peu à travers ces textes, les miracles n'ont jamais convaincu personne, en fait. Ils ont convaincu que les gens qui étaient déjà convaincus avant. Donc, je ne crois pas que ce soit, si vous voulez, tellement dans la Bible, le miracle soit un objet de marketing. Alors, il y a une difficulté un petit peu pour traiter du thème du miracle dans la Bible, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas un seul mot en hébreu qui veut dire miracle en français, ou un mot en grec qui veut dire miracle en français. Hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau. Donc, je vous propose, si vous voulez, plutôt l'idée générale, à mon avis, c'est quand même celle de la nouveauté qui est due à Dieu. Donc, je vous ai mis, par la Genèse, il n'y a pas tout à fait le mot miracle. Il y a le mot miracle, par exemple, dans le psaume 77 que j'ai mis en dessous. Il y a un petit catalogue des mots qui sont possibles pour le miracle. Donc, par exemple, le psaume 77, il y a le psalmiste qui pleure parce que dans sa vie, il n'y a pas les miracles qu'il voit marqués dans la Bible, finalement, et donc dont on lui a raconté dans l'histoire ancienne. Et alors, il dit « Je me rappellerai les actes de l'Éternel ». Les actes de l'Éternel, c'est des actes de puissance. Je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné. Et tu as conduit ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron, donc à travers la mer Rouge. Et donc finalement, vous voyez, il y a des tas de mots pour dire éventuellement les hauts faits de l'Éternel, les prodiges, les miracles de Dieu, mais globalement, ce qui est miracle dans la Bible, c'est le miracle de l'action de Dieu, puisque par définition, être créateur, c'est injecter finalement quelque chose qui est de l'ordre de la rupture dans le cours de l'histoire, une rupture dans la chaîne de causalité. Bon, normalement, on met ensemble du sel et de l'eau, on a de l'eau salée, quoi, vous voyez. Ça c'est la normalité, et bien tout d'un coup on met du sel dans l'eau, ça fait de l'eau sucrée, quoi. Donc là c'est étonnant, c'est un prodige. Bonsoir. C'est étonnant, c'est un prodige. Donc c'est ça, c'est la nouveauté. Alors il y a plusieurs expressions qui servent de marqueur finalement dans le texte biblique pour dire, oui alors les tables, en fait on a mis deux chaises par table, mais en rajoutant une chaise entre les deux, ça, il y a trois places en fait sur une table. Donc, éventuellement, on peut arriver à faire le miracle de la multiplication des places. Donc, Dieu dit, si j'ai souligné Dieu dit, c'est qu'il y a un des marqueurs, si vous voulez, dans la Bible, de la nouveauté de ce qu'apporte Dieu. Je l'ai marqué avec les petits points qui sont en dessous, quand il y a marqué « Ainsi parle l'Éternel ». Ça paraît banal dans le texte. En fait, c'est une expression qui est assez stéréotypée dans l'hébreu de la Bible. J'ai marqué à côté en hébreu, « Ko'amar Yahou »,« Ko'amar Yahvé », »,« Ko'amar l'Éternel », »,« Ainsi parle l'Éternel ». C'est un marqueur pour dire, Dieu voit qu'il se passe ceci, et puis « Ainsi parle l'Éternel », et il annonce quelque chose de neuf, il injecte quelque chose de neuf, il appelle un prophète, il fait quelque chose, voilà. Et l'autre marqueur, c'est quand il y a marqué « et voici ». Bon, pourtant, c'est pas bouleversant quand on le voit en français. Ben, ça devrait. Ça devrait parce que quand il y a marqué ça, c'est un marqueur pour dire « là, ça rigole plus, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est un acte de création de Dieu. » Donc, j'ai mis un petit exemple. Voilà, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est dire le verbe « amar ». c'est un verbe de création par la parole. Ça injecte du miracle, donc, c'est-à-dire du quelque chose de prodigieux, quelque chose de, ou on pourrait dire un acte de puissance aussi. Dieu, par sa puissance, transforme la réalité. Avant, il n'y avait que des ténèbres. Dieu dit, la lumière fut, c'est un miracle. Il n'y avait pas de raison que la lumière apparaisse. Enfin, ben là, c'est la lumière spirituelle, parce que la lumière physique, dans les jours de la création, c'est plutôt le quatrième jour. Mais enfin, bon. Et puis, à la fin de cette création, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ben, ce vayehi, ça vient clore, finalement, cette sorte de nouveauté qui est proposée dans cette page de la création. Alors, je remarque, tout acte de création ou tout acte de grâce. La grâce aussi, c'est une question qui n'est pas logique, si vous voulez. Normalement, il y a de la rétribution. Bon, on fait bien son examen au bac, on a 20 sur 20. Si on fait une copie nulle et puis qu'on vous donne 18, c'est de la grâce, c'est-à-dire que c'est immérité, en fait. C'est purement à la tête du client et tout d'un coup, l'examinateur décide que vous avez une tête qui est merveilleusement sympathique et il va vous mettre 18. Bon, ça marche peut-être qu'à l'oral.
C'est de la rétribution, ça aussi.
Ah, c'est de la rétribution si c'est la tête du visage. Oui, ça, c'est vrai. Non, alors ça peut être simplement par grâce, parce que tout d'un coup, il le sent comme ça. Voilà. Mettons, il y a un rayon de soleil qui entre dans la pièce et tout d'un coup, le professeur, pris par une poésie irrépressible, décide de mettre 18 à la personne qui est là, ben parce qu'elle était au moment où il y avait un rayon de soleil dans la pièce. Donc, chaque fois qu'il y a acte de création ou grâce, en fait, il y a un miracle, c'est-à-dire une rupture dans la causalité, une chose surprenant, imprévisible, illogique. C'est un miracle. Et inversement, tout récit de miracle, en fait, nous parle de Dieu, de ce qu'il injecte dans le monde, dans l'histoire, dans la réalité, dans notre vie, en fait. Et bonsoir. Si quelqu'un a la petite feuille, je veux porter une petite feuille. Alors ça se justifie aussi avec un autre verbe parler qui est dabar en fait, en hébreu. Il y a deux mots pour parler. Il y a le hamar du début qui est vraiment créé par la parole. C'est-à-dire créé dans un acte de collaboration avec la créature qui est en face. Et puis il y a dabar qui est un acte de parole, mais plus la loi, si vous voulez, les 10 commandements, la révélation. Mais quand même, on remarque que ce verbe dabar, lui aussi, c'est le même verbe, le même mot finalement, quand il est au substantif, ça veut dire aussi bien l'événement que la parole. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, elle crée finalement, elle fait événement dans le cours de l'histoire, et inversement, l'acte de Dieu est en même temps révélation de ce qui est juste, de ce qui est bon, et de l'être même de Dieu. Donc les deux vont finalement bien ensemble. Alors, moi je dirais que, grosso modo, voilà ce que c'est que le miracle. C'est un acte de Dieu, mais par extension, tout acte prophétique, finalement, tout acte créatif de l'humain, puisqu'il est créé à l'image de Dieu, peut être source de miracle. Voilà. Alors, c'est un peu ce que dit finalement Paul dans Romains 1, 19 à 20. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour l'humanité, quoi. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, ceux qui ne croient pas à Dieu, qui n'ont pas connu Dieu. Donc voilà, donc la façon dont Dieu agisse est parole et révélation. Et inversement, j'allais dire, c'est... Voilà. Alors ensuite, le psaume 77, je vous ai dit, il y a la mémoire des miracles que Dieu a fait. Alors, typiquement, le miracle, puisque c'est celui qui est célébré en particulier à Pâques, la Pâque juive, la Pâque chrétienne, si vous voulez, c'est libération hors d'Égypte, la libération, la traversée de la mer Rouge. Alors, la traversée de la mer Rouge, c'est présenté dans le récit du texte biblique vraiment comme un miracle. On ne peut pas dire, oui, il y a eu un courant d'air... Ça a écarté un peu des vaguelettes, si vous voulez. C'est marqué, la mer s'écarte comme deux murailles, vous voyez. c'est quand même pas... Une muraille, ça fait pas 20 centimètres, n'a pas de l'eau jusqu'aux chevilles, quoi. C'est comme dans le dessin animé Prince d'Égypte. Je sais pas si vous avez vu, il y a des murailles d'eau et on voit les poissons, les requins qui nous regardent à travers le mur d'eau. C'est vraiment un miracle. Alors ce miracle, il est rappelé dans la Bible, il est rappelé de génération en génération et finalement il est revécu par la génération suivante dans la traversée du Jourdain. Un peu la même histoire. Et quand ils traversent le Jourdain pour rentrer donc en Israël, ils font mémoire de ces traversées avec en dressant une sorte de mémorial, Gilgal, avec des pierres qu'ils ramassent. Voilà, et finalement, cette mémoire, c'est pour que les enfants dans les générations suivantes se souviennent des miracles de l'Éternel, mais pas pour faire de l'histoire, si vous voulez, pour que... qu'ils sachent que Dieu est puissant, que Dieu fait des miracles dans notre existence. Et donc finalement, la Bible est un peu écrite pour ça. Et la fête de Pâques, elle célèbre encore ces miracles anciens, mais pour qu'il y ait du miracle dans notre existence présente. Donc le texte, il fonctionne pour ça quand même, pour faire mémoire de ça et pour arriver à se l'approprier. Alors on peut voir dans 1 Corinthiens 10... une relecture finalement par l'apôtre Paul lui-même de ce grand miracle emblématique, si vous voulez, de la traversée des Hébreux de la mer Rouge. Je ne veux pas, nous dit Paul, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Alors la nuée, c'est que bon, il y a un autre miracle, c'est que sur le chemin, il y a la montagne pleine de colonnes de feu et de fumée, et puis Moïse reçoit les tables de la loi gravées avec le doigt de Dieu. Et puis, il y a plein d'autres miracles chemin faisant. Ils reçoivent la caille, ils reçoivent de la manne, du pain, du ciel, voilà. Mais enfin là, tous sont passés à travers sous la nuée, tous sont passés au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. C'est vrai qu'il y avait un rocher qui les suivait dans le désert. Ça, c'est quand même un sacré miracle. Un rocher qui bouge comme ça. Moïse tapait un peu avec son bâton, paf, il y avait de l'eau qui coule. C'est pratique dans le désert. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. Or, ces choses... Et bonsoir. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'image. Donc, si vous voulez, Paul, il dit, ces choses sont arrivées. C'est-à-dire que lui, il dit pas que c'est du... il dit pas que c'est... que c'est des contes de Perrault, si vous voulez. Il dit pas que c'est... Quoi, Blanche-Neige et les Sept Nains. Bon, ça, c'est pas un conte de Perrault, c'est un conte de Grimm, je pense, mais... Donc, il dit c'est arrivé. Mais il dit c'est arrivé pour nous servir d'image, de type. Voilà. Et donc, le miracle, c'est ça. C'est-à-dire que ça arrive vraiment, c'est-à-dire que Dieu injecte du neuf, il fait ouvrir... Bon, c'est comme ça que le comprenait Paul. Ensuite, on n'est pas forcé de le suivre dans cette façon de comprendre le récit biblique. Et là-dessus, je crois qu'il peut y avoir différents avis. Hein, de dire, est-ce que Moïse... quel est l'événement qui est arrivé derrière ce Moïse qui traverse la mer Rouge, si vous voulez. Peut-être qu'il y a un fond historique, un substrat historique, que oui, bon, ils sont arrivés à passer finement dans des sables un peu mouvants, ils connaissaient le trajet, et ils sont passés à moitié dans l'eau, à moitié dans du sable mouvant, et puis ils ont pu s'échapper, et puis les pharaons et ces soldats qui suivaient, bah, ils sont tombés dans les sables mouvants, j'en sais rien, si vous voulez. Peut-être qu'il y a eu un courant d'air, mais c'est pas une lecture qui est tellement intéressante, ça, à mon avis, si vous voulez, parce que d'abord, ça concerne... je suis pas sûr qu'il y ait eu un monsieur Moïse, j'ai des gros doutes. Par ailleurs, même s'il y a eu un monsieur Moïse... ce qui est arrivé, la manière dont il s'est échappé, à la limite, c'est anecdotique. Hein, puisque bon, c'était il y a... Si c'est arrivé, il y a quand même 2-3 minutes. Tant mieux pour eux. tant pis pour les soldats de Pharaon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien que ça soit un type, c'est-à-dire que ça parle du miracle de Dieu pour nous dans la vie de tous les jours. Donc, à ce moment-là, l'événement historique derrière, éventuel, c'est anecdotique. Ça peut intéresser des historiens, ça peut intéresser ceci, ça peut intéresser cela, mais ça nous c'est pas ça qui va bouleverser notre existence. C'est pas, alors que ça nous sert d'image pour qu'on puisse s'ouvrir, si vous voulez, à ce miracle de Dieu dans notre existence. Et donc il y a une relecture, bon, de traverser la mer comme un baptême, c'est-à-dire comme une purification. C'est-à-dire que, selon la lecture de l'apôtre Paul, nous sommes à la fois l'hébreu qui traverse, le peuple hébreu qui peut traverser et qui est sauvé de l'esclavage, et nous sommes à la fois le pharaon qui est noyé dans la mer. On est à la fois, il y a du, en chacun de nous, il y a quelqu'un qui est esclave du péché, esclave peut-être de sa colère, peut-être de blessures anciennes, peut-être de la dépression, peut-être de, je ne sais pas, de ceci, de cela, de son manque d'être, de son manque d'intelligence, de, je ne sais pas, chacun son problème. Et on n'arrive pas à se libérer par nous-mêmes. Il y a un miracle de Dieu qui permet de se mettre en route et qui permet de nous libérer de ce qui est pharaon en nous, quoi, de ce qui est égyptien en nous, de ce qui nous tue, de ce qui nous retenait, de ce qui nous opprimait, de ce qui nous faisait souffrir. Et donc il y a cette mise en route de notre être. La nuée, c'est donc quelque chose qui nous donne la lumière, qui nous donne la révélation, et donc on est finalement, Moïse est aussi un type de ce que nous sommes, recevant de Dieu directement, plongé dans cette lumière de Dieu, nourri par le Christ, qui est comme un rocher donc solide et vrai, dans lequel coule de l'eau vive, qui va nous abreuver dans notre cheminement, si vous voulez, vers la vraie vie, vers la vie éternelle, vers la terre promise, vers la vraie vie. Voilà. Et donc pour Paul, c'est arrivé, mais ce qui est important, c'est que c'est arrivé pour que ça nous apprenne ce qui va nous arriver en Dieu, le salut de Dieu. Voilà. Et donc le miracle qui est en question, c'est le miracle présent et à venir, qui se réalise en nous. Alors dans Genèse 18, si je l'ai mis, c'est que si vous voulez, il y a un des grands miracles, j'allais dire, de cette saga de la Genèse, de la Torah, quoi, des premiers livres de la Bible. C'est Abraham qui est une figure emblématique avec ce miracle de la conception d'Isaac alors qu'ils étaient un peu âgés déjà. Sarah avait 80 ans et puis Abraham peut-être 100 ou 120, je ne sais plus, non 100.
Ouais, 190, c'est la moyenne en tout cas.
Déjà, voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Donc il y a vraiment un miracle. Cela dit, on lui promet qu'il aura une descendance en Genèse 12. Et ça va mettre 6 chapitres. Mais 6 chapitres, ça va mettre 40 ans, vous voyez, avec des tentatives successives. Et puis il se replaint, il dit, mais enfin bon, Seigneur éternel, tu m'as promis une descendance. Et puis ça patine, j'ai rien vu venir. Hein. Alors finalement, ils inventent... il se dit, peut-être c'est parce que je participe pas assez finalement, et donc il va dire, je vais me débrouiller par moi-même, quoi, hein, puisque bon, on me l'a promis, peut-être que ça veut dire que je dois me débrouiller, quoi, pour faire miracle dans mon existence. Et donc ils prennent le coup de la mère porteuse, si vous voulez. Alors ça produit effectivement un fils, mais c'est pas vraiment le fils de la promesse, c'est pas génial, quoi. Alors finalement, après avoir d'abord essayé de laisser Dieu agir, ça ne donne pas grand-chose, tout seul. Après avoir essayé d'agir lui-même, ça marche un peu, mais ce n'est pas génial. Il comprend qu'il faut la juste place, et pour Dieu et pour lui-même. Et il est capable, d'accueillir finalement des sortes d'anges ou d'hommes ou de Dieu qui vient. Et puis, dans cette juste relation, peut-être, il arrive à faire place. Et donc, il y a cet ange ou cet homme, on ne sait pas, pour lequel il a préparé une blanquette de veau. Je le dis parce que c'est un de mes menus préférés. Et donc voilà, on nous dit qu'il prépare une blanquette, en fait. J'y peux rien, c'est marqué. Et donc il offre une blanquette et l'homme dit, y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel, au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque Sarah aura un fils. Et effectivement, elle va avoir un fils. Donc vous voyez, c'est pour dire que le miracle de Dieu, si on dit que c'est fait par sa parole, comme au début, c'est que ça appelle à une collaboration de l'homme en face, par la foi finalement. C'est pas un miracle, et ça j'aurais dû le mettre dans la liste aussi, mais on voit Jésus à Nazareth, et puis on nous dit, mais en fait il n'arrive pas à faire de miracle parce qu'il n'y a pas assez de foi à Nazareth. Tout le monde dit, ah mais c'est le petit de Joseph, le charpentier, fils de charpentier, on connaît ses frères, ses sœurs. C'est pas lui qui va, je veux dire, on le connaît le mec. Et du coup, il n'y a pas de miracle, parce qu'il ne croit pas assez. Et ça, je trouve que quand on nous dit que finalement l'injection de neuf par Dieu, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la parole, c'est ça que ça veut dire. Parce que la parole, bon, on l'entend pas, on l'entend, on la comprend pas, on la comprend, on l'entend, on n'est pas d'accord, ou on est d'accord. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette histoire de la Genèse 18, tu vois, de Genèse 12 à 18, d'Abraham et Sarah qui conçoivent un enfant. Il y a la volonté de Dieu de faire un miracle, et puis bah faut le temps que ça fasse son chemin, quoi. Il faut le temps que c'est pas. Alors il y a une vraie puissance, mais c'est pas une puissance magique comme ça, voyez. C'est une puissance et une faiblesse de Dieu dans un sens. Et c'est pour ça que bon, faut pas non plus se laisser peut-être avoir par cette. Dieu est ni, à mon avis, tout puissant. Ni pas puissant du tout. Il est puissant, mais, vous voyez, dans une puissance souvent qui est par la parole, voilà, par la puissance, par la conviction, une puissance par la mise en mouvement, par le supplément d'être. Et ça, ben, c'est pas forcément instantané, c'est pas forcément facile, comme on le voit là. Et l'homme peut résister à ce miracle. C'est pour ça que ces textes sont écrits, comme le dit Paul, là, dans 1 Corinthiens 10, pour que nous, on puisse s'ouvrir à ce miracle, qu'on le saisisse et qu'on s'en... Voilà. Alors là, si je mets ce texte de l'Exode, c'est toujours... Bon, parce que j'ai essayé de creuser un petit peu, si vous voulez, ce grand miracle qu'est la libération hors d'Égypte, qui est emblématique, si vous voulez, du miracle de Dieu. Il s'agit encore de convaincre, voilà, de convaincre le Pharaon, peut-être convaincre ce qu'est Pharaon en nous, si vous voulez, de libérer le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est vrai pour chacun de nous, c'est vrai pour l'humanité aussi, si vous voulez. Et puis, ben, le Pharaon résiste. Alors... Moïse, il dit, mais ils ne me croiront jamais, et puis le Pharaon ne va jamais libérer. Donc là encore, il faut que, voilà, il faut qu'il y ait la foi, la puissance de Dieu, il faut qu'elle puisse, je veux dire, pétrir cette pâte, l'insuffler, son œuf, et qu'il s'apprenne, que la greffe prenne. Il dit, ben voilà, on va leur faire des miracles, comme ça le Pharaon, il va comprendre. Et donc, il y a le bâton magique de Moïse et d'Aaron. Et... alors bon, anecdote pour détendre l'atmosphère. Si on prend des nouvelles secondes, c'est parce que dans l'ancienne traduction du 19e siècle, il y a beaucoup de mots qui ont changé de sens. Mais le mot bâton, c'est le mot verge. Alors c'est vrai que si vous voulez, dans la traduction ancienne, il y a marqué la verge d'Aaron se couvrit de boutons. Donc c'est vrai que si vous voulez, quand on lit ça avec la catéchumène, ça les fait rigoler. Bon, il y a une nouvelle traduction. Il met le bâton d'Aaron se couvrit de fleurs. C'est déjà plus poétique, si vous voulez. Donc, c'est vrai que les traductions, vous voyez, l'évolution des traductions, c'est aussi pour suivre le langage, mais il y a d'autres intérêts à prendre des traductions plus modernes, plus récentes. Il y a aussi des découvertes linguistiques, des recherches aussi, des erreurs corrigées. Mais enfin, bref. Ici, si vous voulez, donc, Aaron fait des prodiges avec le bâton de Moïse. Ça se transforme en serpent, on transforme l'eau en sang, il y a tout un tas de jolis prodiges. Mais les magiciens du Pharaon, ils en font autant des miracles, en fait. Et le Pharaon, ça ne le convainc pas du tout. Bon, finalement, Moïse, de justesse, à l'usure, il va finir quand même par l'emporter avec ses prodiges et ses miracles. Et le Pharaon va le laisser partir, bon, par un moment de surprise et de faiblesse. Hop, il les laisse partir, et puis le lendemain, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Il leur court après. Donc, mais si vous voulez, là, on voit que les miracles, ça convainc personne. Les miracles, tout le monde en faisait, il y avait les sorciers en faisaient. Esculape faisait des miracles bien mieux que ceux de Jésus. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, si on me dit, dans telle église, il y a plein de miracles, je me dis, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est quoi? Bon. Puis là encore, je ne veux pas dire du mal des collègues, ce n'est pas du tout mon genre, mais quand on commence comme ça, c'est mal parti. Hein. Une fois, on reçoit un groupe de, je ne vous dirai pas qui c'est, par charité chrétienne, un groupe de pasteurs. Hein. Et il me dit, vous êtes pasteur de l'oratoire, ça c'est une belle église. Vous savez, ce qui marche bien en ce moment, c'est les miracles. Hein. Avec ça, on remplit. Hein. Vous faites des miracles, les gens ils viennent. Hein. Et puis, ça les convainc, et puis ils sont contents, et puis ça marche bien en ce moment. Il faut faire des miracles pour que les gens viennent. Vous devriez essayer de faire ça. Alors c'est vrai que moi je me suis demandé à un moment s'il rigolait ou s'il parlait sérieusement. Mais non, il parlait sérieusement en fait. Donc c'est vrai que ça peut être un argument marketing pour un certain public, mais à mon avis c'est une exploitation de la crédulité du public. Mais grosso modo, je crois que ça convainc personne. Et moi, c'est pas les miracles qu'il y a dans telle église ou chez les vaudous ou dans je sais pas quel chirurgien à main nue, je sais pas quoi, qui va me convaincre d'entrer dans telle et telle religion, parce que je pense pas que ce soit d'abord, ça n'a jamais convaincu personne, mais bon. Alors, on le voit dans Marc 4 que je vous ai marqué. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais à tous ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, comme des énigmes. Donc, ils voient des choses arriver, mais ils ne les comprennent pas bien. De sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas. En entendant, ils entendent, mais ne comprennent pas. Et donc, les miracles... Pour ceux qui sont dehors, ça leur dit rien, quoi. Et puis pour ceux qui sont dedans, ils y reconnaissent un signe de Dieu. Donc à mon avis, il ne faut pas prendre le miracle pour convertir. Celui qui est vraiment en relation avec Dieu, il va reconnaître l'action de Dieu dans le monde et dans sa vie. C'est plutôt dans ce sens-là. Et dans Matthieu 11, quand même, si vous voulez, Jean-Baptiste, donc il était... D'après l'évangile, c'était le cousin de Jésus. Il commence à lancer un peu un mouvement de conversion, quoi. Jésus, il passe par ce mouvement de conversion et puis ensuite, il prend son autonomie par rapport à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il hésite à savoir est-ce que c'est le Christ, est-ce que c'est pas le Christ, voilà. Et Jésus lui dit, mais en fait, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, quand même, si vous voulez, il faut, à contrario de ce que je viens de vous dire, il ne faut pas, les miracles ne convainquent personne, il ne faut pas se laisser embarquer par n'importe quelle église qui fait des miracles parce qu'ils veulent manipuler les gens. Mais, quand même... Quand on a une vraie recherche spirituelle, on peut être amené à discerner dans la réalité, dans les gens qu'on rencontre, eh bien, les signes de miracles comme ça. Et donc, à mon avis, ces miracles, on va voir un petit peu ce que ça peut être, mais il y a vraiment des miracles, c'est vrai. Je crois personnellement vraiment que Dieu injecte du neuf et de la nouveauté de vie, et donc qu'il y a miracles. Alors là j'ai mis après Matthieu 9, j'aurais dû mettre, effectivement j'ai oublié de mettre l'épisode à Nazareth où les familles et les voisins de Jésus y croient pas, mais les pharisiens eux ils disent mais en fait c'est par le diable, par les démons pour faire le mal que Jésus fait des miracles, c'est du marketing pour les en tirer dans l'erreur et dans sa secte quoi. Et finalement, ça, c'est ce qui a été retenu un petit peu par le Talmud de Babylone. Donc, c'est un écrit juif du 1er, 2e siècle, si vous voulez. Et donc, voilà ce qu'ils disent. Jésus fut pendu la veille de Pâques. 40 jours auparavant, le héros, donc le crieur de rue, avait crié dans la ville sa condamnation. Il s'en va à la lapidation parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et qu'il a égaré Israël, le conduisant à rejeter Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il vienne et le dise, mais comme on ne présenta rien en sa faveur, il fut pendu à la veille de Pâques. Donc, on disait, ben voilà, c'est un sorcier, et puis c'est un gourou, quoi, si vous voulez. Ça correspond bien, en négatif, à ce qu'on voit dans l'évangile. Il fait des miracles et il prêche un évangile, j'allais dire, du judaïsme spirituel et libéral, j'allais dire, si vous voulez, pour dire vite. Et du coup, ça peut fâcher des gens, mais... Donc moi, historiquement, je dirais c'est assez probable qu'il y a eu quelque chose comme de l'ordre du miracle, historiquement, dans la vie de Jésus. À mon avis, si Jésus en faisait vraiment pas la publicité de son miracle, on voit assez souvent, il dit « Ben non, n'en parlez pas, tant mieux pour vous, mais gardez-le pour vous. » quoi. C'est parce que c'est un petit peu ennuyeux, à mon avis, dans sa démarche. Pourquoi ? Parce que ça manifeste à la fois, que le salut qu'il apporte en tant que Christ, ça va être un miracle de transformation du monde auquel les gens vont assister, vous comprenez ? Que tout d'un coup, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de tremblements de terre, il n'y aura plus de guerre, et tout d'un coup, comme par magie, sous nos yeux ébahis, applaudissant devant ce beau spectacle de magicien, et bien tout le problème s'arrange paum d'un coup sec, et que voilà, on se trouve dans une harmonie parfaite. Et donc il y avait des gens qui attendaient ce type de miracle là finalement par le Christ. Or c'est pas ce type de messianité là que Jésus accomplit. Donc je crois qu'il faisait des miracles, je sais pas comment des gens étaient guéris dans son entourage. Peut-être parce qu'il était un peu rebouteux sur les bords, peut-être qu'il y avait de l'autosuggestion. Avec le charisme qu'il avait, les gens étaient tellement bouleversés qu'une énergie en eux se remettait en ordre leur vie tout entière, y compris au niveau physique. J'en sais rien, si vous voulez, qu'importe. Mais visiblement, il y a là quand même un problème pour Jésus dans ce miracle qu'il produit comme un peu malgré lui. Bon, cela dit, comme je vous disais, ça convainc personne. Eux, ils disent, c'est un sorcier, et puis voilà. Donc lui, il n'utilisait pas tellement ça comme instrument de marketing. Il refuse en général de faire des miracles quand on le lui demande. Alors ensuite, dans 2 Corinthiens 15, on voit un peu le catalogue de mots qui peut servir dans le Nouveau Testament pour parler du miracle. Donc ça, c'est Paul qui parle et qui dit l'épreuve de mon apostolat, parce que les Corinthiens, ils sont compliqués quand même comme église, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes. La patience à toute épreuve, c'est déjà un sacré miracle, à mon avis, parce que les Corinthiens, fallait se les taper, ça n'a pas l'air facile, par les patiences à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et par des miracles, des actes de puissance. Donc, il y a les trois, finalement, qui peuvent être remarquables dans l'action de Dieu pour nous, dans notre vie, peut-être, ou dans ce monde. Donc, les prodiges, c'est vraiment les choses qui n'auraient pas dû arriver, si vous voulez. Les miracles, donc dynamis, la puissance, c'est des actes de puissance, à la limite, qui peuvent être dans l'ordre des choses, mais avec vraiment une activité efficace. Voilà. Et puis le signe, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'il faut lire, qu'il faut décrypter pour comprendre toute la portée de la chose. Donc on va voir peut-être quelques petits miracles donc de Jésus. Il y a Jean 20, c'est la fin de l'évangile en fait. C'est la fin de l'évangile et c'est plus tout à fait l'évangile, parce qu'un évangile, c'est la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Et donc l'évangile, c'est les récits des actes et des paroles de Jésus. Là, Jean 20, 30, 31, c'est l'auteur du livre, Jean, donc peut-être, probablement, ou selon la tradition, qui vient dire comment il faut lire son texte. Et donc, il nous explique ça. Donc, ce n'est plus vraiment l'évangile, parce que c'est déjà le mode d'emploi, c'est une postface. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Mais là, il y a mal, c'est le mot signe, c'est mégon, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, enfin en ayant foi, confiance, vous ayez la vie en son nom. Donc un peu comme finalement Paul le disait pour l'histoire de la mer Rouge, il croit que c'est arrivé, les récits sont arrivés, mais qu'il faut le lire comme des signes, c'est-à-dire il faut le lire comme on lit des lettres sur un papier, en interprétant comme un rébus, on essaye de le lire pour voir en quoi ça fait sens pour nous. Donc il dit bien, je ne fais pas un livre d'histoire, je fais un livre de théologie, un livre parlant de notre salut à nous, en fait. Qu'on vient de lire les récits de miracles comme ça, finalement. D'après Jean lui-même, qui écrit le bouquin. C'est pour ça que lui, il met en particulier, il met Séméion, il ne met pas Dunamis, ni Terras, pour parler de ce qu'accomplit Jésus. Et effectivement, plusieurs fois dans l'évangile lui-même, parce que, bon, pour être... pour essayer d'être, j'allais dire scientifique, eh bien, il faut voir, pour essayer de chercher comment le texte a été écrit, de quoi on nous parle quand on nous raconte un miracle, eh bien, il faut essayer de voir quand le mode d'emploi est donné avec le récit, si vous voulez. À ce moment-là, ça éclaire quand même un peu. C'est pas simplement la lubie... De théologiens fumeux, libéraux du XXIe siècle. C'est un texte qui s'interprète lui-même. Bon, c'est quand même précieux. Donc là, Jean donne un peu une clé, mais ensuite, dans Jean 9, dans le corps même de l'Évangile, ce Jean 9, il commence en disant « Tant qu'il fait jour, il faut que nous fassions les œuvres de mon Père ». Donc Jésus et les disciples, il faut que nous fassions. Et alors donc il guérit un aveugle né, c'est quand même pas mal, un type qui est aveugle depuis toujours. Et puis l'aveugle né, il revient voir Jésus avec ses deux yeux qui voient. Donc il y a un miracle physique dans le récit du texte. Mais là, il y a finalement une relecture par Jésus lui-même, par le texte de l'évangile lui-même plutôt, qui propose une relecture spirituelle du miracle qui vient d'être raconté dans le début du chapitre 1. Jésus dit donc à l'aveugle né guéri, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors quelques pharisiens, qui ne sont pas stupides, parce qu'ils ont l'habitude de réfléchir sur ce genre de choses, qui étaient avec lui, entendu ses paroles, lui dit, mais tu veux dire que nous aussi nous sommes aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Et vous êtes tellement sûr de voir que vous n'ouvrez pas, même pas les yeux, finalement. Et c'est comme ça que votre péché subsiste. Et donc, c'est ainsi que Jésus est lumière du monde. Je veux dire, même les plus fondamentalistes, on dit Jésus est lumière du monde, ils ne pensent pas que Jésus est un champ de photons ou un... Et oui, ils disent, non, il faut le lire au sens, au deuxième degré, au sens spirituel. Ben oui, mais les miracles aussi, si vous voulez, puisque c'est des signes. Il faut le lire au sens figuré. Comme Jésus est lumière du monde, et ben, il guérit la vue. Voilà. Et donc oui, on peut voir, comme il le dit à Jean-Baptiste, on peut voir des aveugles qui se sont mis à voir, des gens qui étaient vraiment dans les ténèbres, qui étaient complètement aliénés, pas au sens de fous à repeindre le plafond, mais aliénés au sens ils ne sont pas vraiment eux-mêmes, pleins de préjugés, pleins du désir de paraître, je ne sais pas quoi moi. Et qui sont libérés, voilà, qui voient clair, qui voient leur vraie valeur de la vie, la valeur des êtres qui les entourent. Donc c'est ça dont on parle quand même, vous voyez, explicitement. Et le véritable aveugle, c'est pas celui qui a des yeux, qui voit pas, qui peut pas lire. Véritable aveugle, c'est celui qui est tellement sûr de voir clair qu'il regarde même pas. Il a tout vu déjà. Il connaît la vérité, the vérité de Dieu. C'est pas la peine de s'ouvrir à une nouveauté de vie. Voilà. Alors ensuite, je propose rapidement une autre petite lecture, celle de la multiplication des pains. Ça, c'est du miracle. Alors pour, j'allais dire, pour rigoler un petit peu, mais j'ai mis à la fin, voyez, un petit calcul physique. Si Jésus avait vraiment multiplié du pain pour 5000 personnes, avec E égale MC2, il y a une création de matière assez non négligeable. Enfin, vous le lirez, vous referez le calcul, vous me dites si je me suis trompé. Mais si Jésus a vraiment créé la matière comme ça, de pain, en passant de 5 baguettes, 5 fois 200 grammes, parce que la baguette, quand j'étais petit, elle faisait 250 grammes, bientôt, elle ne fera plus que 100. Mais... Enfin bref, mettons qu'elle fait 200, ça fait 1 kilo de pain. S'il la fabrique pour 5000 personnes, ben, en un quart d'heure, 20 minutes, le temps que le miracle s'accomplisse, il fait à peu près la puissance de 60 000 centrales nucléaires. Donc je dis bravo Jésus. Sauf que si vous voyez, ce n'est pas ça dont on parle, évidemment. Ce n'est pas ça dont parle ce texte. Pas plus que quand on dit Jésus est la lumière du monde, Jésus, est, on n'a plus besoin de prendre un abonnement à l'EDF pour voir clair quand il fait nuit. Hein. Ce n'est pas la question. Et là, c'est de la chance, il y a une relecture par Jésus lui-même de ces deux multiplications des pains. Alors je vous l'ai mis là. Ils ne comprennent rien, les disciples. Il leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Il se dit « Ben, il nous dit, on n'a pas acheté de pain, donc on ne va pas s'en sortir. Faut pas acheter chez une boulangerie pharisienne. » Bon, j'allais dire, au Chambon-sur-Lignon, pour parler à... Les protestants vont chez le boulanger protestant, les catholiques chez le boulanger catholique. Bon, donc là, ils se disent « C'est comme ça, faut pas aller chez la boulangerie pharisienne, faut aller chez la boulangerie chrétienne, enfin, disciple de Jésus. » Jésus leur dit « Non, mais vous rigolez, c'est pas ça qui est en cause. Je vous parle pas du pain de farine, quoi. » Je vous parle spirituellement, quoi. Quoi. Et il leur dit, vous n'avez pas encore compris, mais vous êtes vraiment bouchés, quoi. Alors comment vous ne comprenez pas? Et alors il leur répète, il leur explique, voilà. Vous n'avez pas de mémoire? Quand j'ai rompu 5 pains pour 5000 personnes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu 7 pains pour 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Il leur dit, vous ne comprenez pas encore? Ben, c'est donc qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et donc, ils ont compris, en fait. Et donc, pour comprendre, il faut décrypter les chiffres et les signes de cette multiplication des pains. Et alors, derrière, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Il y a plein de façons de comprendre ça, de faire ce qu'on appelle du concordisme, de se dire, ben voilà, il y a malgré tout, il n'y a pas le miracle des centrales nucléaires que je viens de vous raconter. Il y a d'autres formes de miracles qui peuvent arriver. Il n'y a pas de quoi manger pour tout le monde. Tout d'un coup, il y a un enfant, nous dit le texte, qui sort un pain de son sac et tout le monde il commence à l'offrir pour le partager. Peut-être que les autres se disent « Mince, mais c'est un enfant qui propose de partager alors qu'on manque tous. » Tout le monde sort son pain et finalement, il y en a assez à manger pour tout le monde. Ça peut être un miracle comme ça, de l'exemple, de l'éthique. Peut-être que c'est simplement une mise en récit, si vous voulez, de quelque chose qui doit se réaliser spirituellement. Donc de partager le pain de la parole, le pain de l'évangile, le pain de la joie, le pain du bonheur, le pain de l'espérance, le pain de, voyez, pain de la parole de Dieu. C'était ça. Parce que ça, c'est vrai que ça se multiplie quand on le partage. Alors que quand on partage un sandwich, tout le monde repart avec un demi-sandwich. Ça ne se multiplie pas. Quand on partage, ça se divise. C'est comme ça. Donc à mon avis, c'est de ça dont on parle. Même s'il y a un truc, un substrat historique à la base. Mais donc, il faut le décrypter, bien sûr. Alors, pourquoi c'est exprimé comme un miracle et pas de dire, ben voilà, il faut partager la solidarité et ça fera tache d'huile. On va offrir de la solidarité, de l'évangile, de l'espérance, de la joie aux gens. Un regard positif, bienveillant, ça va se multiplier. Pourquoi on ne parle pas comme ça? Pourquoi on ne dit pas, par la foi, Dieu peut ouvrir pour vous des chemins dans la mer et être vraiment libéré du péché? Pourquoi on ne le dit pas comme ça, philosophiquement, en français courant, quoi? Et les disciples se plaignent de Jésus, disent « Mais tu nous parles tout le temps en parabole, on ne comprend rien. » Pourquoi? Parce que je pense que, si vous voulez, on nous dit d'abord qu'effectivement, la foi accomplit des miracles dans notre existence. Que ce n'est pas simplement la méthode Coué, en faisant un peu, en ayant un peu sage, en faisant un peu de la philosophie, on ira mieux. Bon, oui, on va mieux quand on fait de la philosophie, à mon avis. Mais il y a plus que ça. Il y a vraiment un supplément d'être qui est transcendant, qui vient par Dieu. Il y a du miracle, quoi. Et donc, ils expriment, il y a une mise en récit de cette nouveauté de vie qu'il y a en Christ, qu'il y a en Dieu, mise en récit sous forme de prodiges, de puissance, de trucs surnaturels, parce que c'est surnaturel. Mais j'allais dire, l'amour est surnaturel. On peut accomplir des trucs incroyables quand tout d'un coup on se sent un peu aimé. C'est vrai, si vous voulez. Donc c'est dit comme ça. Deuxièmement, quand Jésus fait des miracles par simple compassion, alors que c'est improductif pour son job de Messie, ça dit quelque part que le salut, c'est pas simplement du spirituel, de la foi et de machin. C'est quelque chose qui doit toucher aussi le corps, les actes, la justice en ce monde, la santé du corps, et que ça aille mieux, et puis que voilà. Donc je crois qu'il y a ces deux intérêts-là, si vous voulez, cette mise en récit de la guérison d'un aveugle, d'un paralytique, d'un lépreux. Ça dit le miracle de la foi que Dieu accomplit dans notre existence, et en même temps, ça dit la préoccupation légitime du corps, l'intérêt de Dieu pour la vie en ce monde et notre vie, notre épanouissement. Donc voilà ce que je vous proposais sur le miracle, pour laisser la parole à James. J'ai déjà été un poil trop long. Désolé.
On aurait pu arrêter le soleil et que ça dure plus longtemps.
Ah, oui, ça, c'est un beau miracle aussi, avec Josué, non ? Mm-hmm. Fait reculer le soleil, même, peut-être, je ne sais plus.
Alors, les textes bibliques vont être vraiment la matrice pour toute la théologie du miracle, ensuite, dans l'histoire du christianisme. Donc, que vont faire les théologiens ? C'est reformuler ce qui vient d'être dit et mettre l'accent sur tel ou tel aspect. Alors, dans l'histoire de la théologie, c'est surtout à partir d'Augustin que, disons, une théologie du miracle se formalise, disons. Et c'est Augustin qui va ébaucher une première définition du miracle. Comme le disait Marc, un miracle, ce n'est pas un terme qui apparaît dans les textes bibliques, donc on a des éléments qui relèvent de ce qu'on va imaginer être le miracle. Miracle, ça vient d'un mot latin, mirus ou mirus, qui signifie l'étonnement, l'émerveillement. Et voilà la définition qu'en donne Augustin. Je donne le nom de miracle à ce qui apparaît avec la qualité de l'insolite et excède tout ce que celui qui s'en émerveille attendait ou pourrait faire. Donc vous voyez, il y a la qualité de l'insolite, et puis il y a la question de l'excès. Il y a plus que ce qu'on pouvait attendre, ce qu'on pouvait espérer.
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Je donne le nom de miracle à ce qui apparaît avec la qualité de l'insolite et excède tout ce que celui qui s'en émerveille attendait ou pourrait faire.
Oui, c'est bien dit, hein. C'est bien prononcé.
Oui. Ah oui, il a quand même de bonnes formules de temps en temps. Donc, pour Augustin, le miracle est signe. Vous voyez, c'est un séméione, en fait. Hein. C'est-à-dire que le miracle atteste une autre réalité que la nôtre qui est à l'œuvre dans notre réalité. Là, j'espère que je suis en train de vous perdre un peu. Le miracle rend témoignage, en fait, de l'action du Créateur, pour le dire plus simplement. Et si nous nous sentons dépassés, si ça excède, eh bien, c'est parce que nous sommes des créatures limitées. Nous ne sommes que créatures, donc incapables de tenir l'alpha et l'oméga. Et en disant l'alpha et l'oméga, je vous dis le mot signe en hébreu, en fait. Alpha et oméga, en hébreu, c'est aleph, wav, tav. Donc c'est la première lettre de l'alphabet, et la conjonction de coordination, tav, la dernière lettre de l'alphabet. Donc, et ça, c'est le mot hôte, donc aleph, wav, tav, c'est l'équivalent de A-E-T. C'est le mot qui est l'équivalent de séméion, signe, et c'est alpha et oméga. Et donc, c'est une façon peut-être pour Augustin de bien soutenir son anthropologie très pessimiste de l'homme, l'homme pécheur, l'homme fini, l'homme incapable d'embrasser dans un même regard l'intégralité de la création. Et donc, forcément, il est toujours pris en défaut. Et le miracle, c'est à chaque fois qu'il est au contact du divin, à chaque fois qu'il est au contact du divin, l'homme est en fait dépassé. Pour Augustin, on peut dire que le miracle figure la totalité qui nous fait défaut. Alors, vous entendez que le miracle a un rapport avec l'étonnement, avec l'émerveillement. Moi, je serais intéressé de vous dire, de vous demander quel est votre seuil d'étonnement. À partir de quand vous êtes étonné, à partir de quand vous considérez que quelque chose est miraculeux? Quel est votre seuil de tolérance en matière de miracle?
Oui. Oui, moi, je repense à une définition du miracle donnée par les Grecs qui disait que c'était l'art de faire le geste juste au moment juste avec la personne juste. Et ça entrait un peu dans ce que vous disiez à propos du temps, parce que pour réussir à réunir les trois éléments, il faut qu'un certain temps se déroule et que les circonstances le permettent, et elles adviennent quand Dieu le décide.
Est-ce que ce ne serait pas aussi la définition de ce qu'on appelle le kairos, c'est-à-dire le bon moment?
Peut-être. Et je me posais la question par rapport à ça, du rapport entre le miracle, enfin du rapport, de la différence entre le miracle et la magie. Parce que, ayant vécu 20 ans en Afrique, ayant vu beaucoup de problèmes de ce style, y compris dans des jugements prononcés par des cours officiels, du style, il s'est transformé en singe et donc a été abattu alors que c'était un animal, donc l'auteur est innocent. Bon, oui, j'ai vu ça par des magistrats qui avaient fait 5 ans d'école de la magistrature à Bordeaux. Bon, alors, donc ça pose des problèmes, si vous voulez. Donc là, je me pose la question, le miracle, quelle est la limite entre les deux? D'accord. Surtout lorsqu'on sait que la magie a deux faces, la magie blanche et la magie noire, et que nous voyons actuellement quelques-unes des églises protestantes procéder aux haïrs à la création des enfants diables, dont ils ont réussi à créer une quinzaine de milliers rien qu'à Kinshasa, et qui sont rejetés par tout le monde, persécutés, abattus comme des chiens et comme dangereux.
Alors, je garde votre question, je la traiterai quand je vais aborder la question du Moyen-Âge. Si jamais vous me prenez en défaut de ne pas répondre à votre question ou de vous apporter des éléments, vous me sonnez les cloches. Je reviens sur la question du seuil de tolérance. À partir de quand, pour vous, un miracle devient un miracle? Qu'est-ce qui peut être miraculeux, en fait?
Tout est miracle.
Ok, donc ça, tout de suite. Oui. Mais par exemple, effectivement, dans la vie, y compris la vie biologique, est-ce qu'il y a des choses dont vous diriez, voilà, pour moi, ça relève du miracle, et pas la peine de se prononcer en termes de, non, il y a tort ou pas, mais qu'est-ce qu'on aimerait désigner comme miracle? Qu'est-ce qui, pour nous, pourrait être qualifié de miracle? Oui.
Qui ont la chaîne
de causalité. D'accord.
Là, on rend compte que notre capacité à prédire par chaîne de causalité, par déduction de causalité, etc., se bouleverser par.
On est pris son défaut.
J'ai une autre vision. Peut-être. C'est vrai que un peu les miracles, cette prise de défaut là, imminente, au moment présent, ça peut un peu bouleverser, voilà. Mais aussi, pour moi, il peut y avoir un miracle en vision rétrospective, c'est-à-dire que lorsqu'on se place après un certain nombre d'années, un certain moment, et on regarde ce qui a été de l'espace, alors on voit que parfois il y a des petites choses, et au moment, on ne disait pas qu'ils étaient miraculeux, mais que l'effet qu'ils se mettent tous ensemble, au final, a produit une dynamique, quelque chose qui au final, regardons en arrière, ça a été...
Donc une relecture qui permet de voir ce qui est arrivé alors que ça n'aurait pas dû arriver.
Oui, et qui ne nous a pas bouleversé comme ça, ne nous a pris pas par défaut tout de suite comme ça.
C'est a posteriori qu'on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose.
Oui.
Un peu comme le peuple hébreu en fait, on lui donne la terre promise et c'est quand il l'a plu qu'il se rend compte qu'en fait il l'avait reçue. Quand vous dites tout est miracle, en fait c'est la position d'Augustin. Qui considère que le monde est diaphane. Diaphane, ça veut dire que ça transparaît à travers. Oui. L'action de Dieu transparaît à travers le monde. Et donc, l'observation du monde, et dans une certaine mesure la contemplation du monde, peut nous rendre attentifs à tous ces miracles, c'est-à-dire toutes ces interventions de Dieu. La création, ce n'est pas simplement rapporté à un temps passé, la création est continue, donc... le miracle de type Genèse 1 dont parlait Marc peut être encore visible de nos jours. Toutefois, vous savez, l'étonnement, c'est la base même de la philosophie. Taumat Zain, c'est l'activité même du philosophe, s'étonner. Et on peut se dire que les philosophes et les théologiens ne s'étonnent pas forcément de la même chose. Et donc, il y a quand même une sorte de curseur de sensibilité sur ce qui peut être tenu pour miracle ou pas. Alors maintenant, je fais un saut sur le XIIIe siècle, où il va y avoir un petit bouleversement à cause des sciences et de la philosophie occidentale qui, justement, retrouve le principe de causalité. Avec cette idée que des événements peuvent produire d'autres événements. Et cela sans qu'il faille imaginer l'intervention de Dieu dans cette chaîne de causalité. C'est-à-dire qu'on sort de l'idée que Dieu est derrière tout événement, donc un Dieu omnipotent par exemple, ou un Dieu qui tirerait toutes les ficelles, à un espace de liberté laissé à l'homme et des réactions en chaîne éventuellement qui se réalisent sans que Dieu soit derrière chaque action. Éventuellement, certains vont dire qu'il donne l'impulsion de départ, mais qu'ensuite le phénomène prend une direction un peu autonome. Et vous voyez, à partir du XIIIe siècle, cette philosophie occidentale qui reprend le goût de cette chaîne de causalité, va en quelque sorte faire un peu reculer Dieu dans le champ de la vie ordinaire.
Mais quand il pleut, c'est plus Dieu qui fait, c'est plus Dieu qui pleut, quoi, finalement.
Voilà.
Il dit, bah, il pleut parce qu'il y a des nuages. Mmh. Oui.
Ou si c'est Dieu qui pleut, c'est pas forcément lui qui fait les inondations.
C'est peut-être mieux.
Est-ce que ça, c'est lié aux causes secondes ?
Exactement, oui. Parce qu'on va garder la cause première, qui sera Dieu, et les causes secondes, ce sont les effets, qui deviennent eux-mêmes des causes. Je pousse quelqu'un par-dessus le balcon, il tombe, et après, il casse la voiture qui est en dessous, par exemple. Donc, vous voyez, il y a un effet, il tombe, et puis après, ça devient une cause, je casse la voiture, et ainsi de suite. Après, c'est cascade, quoi.
Il y a une dame en face qui pose une petite question.
Oui. Vous avez l'air d'opposer rationalité et parationalité au Bénin, pour reparler de l'Afrique. Un enfant naît, les Béninois, ils disent bien que papa et maman, c'est ce qu'il fallait que l'enfant naisse. Mais que ce soit cet enfant-là, il y a une signification plus loin, mystérieuse, par rapport à la causalité rationnelle, etc. Le fait que ce soit cet enfant-là, c'est basiquement de tel ancêtre, ceci ou cela. Donc, ils disent la réalité ne sature pas de sens.
D'accord.
Ça n'est pas en opposition.
Ouais. Est-ce que, du coup, ça signifierait que cet enfant qui naît et qui est tout à fait singulier, il récupère cette singularité par ce que les parents en font ? Est-ce que le sens, finalement, est donné par les parents, ou est-ce qu'au contraire, ça leur échappe ?
Je ne sais pas, ça leur répondre facilement. Mais par exemple, le nom qu'on donne à l'enfant,
ouais,
c'est un peu l'idée qu'on décrypte son destin. Mmh. Par exemple, s'il s'appelle Benoubou, au fond, ça veut dire qu'il a à réaliser, il a comme destin, comme mission, il a à réaliser ce pour quoi il est né. Mmh. Est-ce que c'est les parents qui donnent ? Est-ce qu'ils décryptent ? Est-ce que, je ne sais pas.
Ah oui. Bon, après, c'est effectivement quelque chose de culturel. On va le voir justement dans les miracles avec les textes bibliques. Dans les textes bibliques, il y a beaucoup de noms programmatiques, mais qui sont donnés a posteriori, en fait.
L'idée, c'est que ça n'exclut pas la rationalité, la vérité n'exclut pas autre chose.
Mmh. Ah oui.
Par oui, oui.
Par rapport au philosophe du XIIIe siècle, quel philosophe ?
Thomas d'Aquin.
Thomas d'Aquin.
Mais vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions des lois physiques, c'est le moment où on dit, finalement, le miracle est un phénomène aberrant. Aberrant au sens positif du terme. C'est-à-dire que c'est pas prédictible. Un comportement aberrant, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Et par rapport aux histoires de causes premières, c'est incausé. Donc c'est pas l'effet d'une cause secondaire. C'est le divin en prise directe avec l'histoire. Donc le miracle, c'est quand Dieu ne passe pas par toutes les médiations humaines. Autrement dit, si je reprenais votre exemple de naissance, la personnalité de cet enfant, si elle est miraculeuse, c'est parce que Dieu lui a injecté une personnalité sans passer par l'éducation des parents. Sinon, c'est une cause secondaire. Oui, voilà. Le XIIIe siècle, le miracle, c'est la confrontation immédiate aux causes premières, pour reprendre votre terminologie. Je vous cite Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Le miracle révèle la souveraineté de la cause première qui met entre parenthèses l'ordre causal. Il agit à l'encontre de l'ordre que propose toute la nature créée. Donc il y a une sorte de contrariété et c'est ce qui met le croyant face à Dieu en fait. Alors, on aurait pu s'arrêter là, mais les sciences continuent à avancer. Et au fur et à mesure que la science avance, les miracles vont reculer. Parce que le désordre physique recule. Et donc, comme il y a de plus en plus de phénomènes qui sont expliqués par les sciences, des phénomènes qui pouvaient nous sembler surnaturels, eh bien, finalement, on se rend compte que les miracles, depuis longtemps, nous permettaient de mesurer notre ignorance. Ce qu'on appelait miracle ou le mystère de la foi, c'était en fait l'étendue de notre ignorance. Ouais, le fameux la foi comme bouche-trou éventuellement. Ouais. Et donc, au Moyen-Âge, le miracle va souvent désigner l'inexpliqué. Et l'essor des sciences après les Lumières va encore accroître ce phénomène, hein, avec... Il suffit de penser à l'électricité, de penser au champ magnétique, et ainsi de suite. Hein, tout ce qui est force de gravitation. Et puis, après, au XXe siècle, on aura les forces sociales. La sociologie va aussi mettre à jour des forces qui étaient là, mais qu'on n'arrivait pas à bien sentir parce qu'on n'avait pas les mots pour le dire. Et donc, l'élaboration des concepts permet de faire reculer l'ignorance et donc faire reculer les miracles en même temps, au sens du surnaturel. Hein, la rationalité prend un peu le dessus. Alors comment les réformateurs ont-ils se positionné puisqu'ils sont un peu à cette phase de transition entre le Moyen-Âge et la période des Lumières? Eh bien, les réformateurs qui ont un goût assez prononcé pour la polémique contre la théologie catholique vont récuser cette approche médiévale du miracle, qui était donc de dire que le miracle, c'est d'être confronté immédiatement à la cause première. Luther va insister sur le miracle intérieur, le miracle de la foi, plutôt que sur les miracles extérieurs, par exemple les guérisons. Luther écrit « Il n'y a aujourd'hui miracle que dans l'expérience du pardon et de la foi ». L'idée de Luther, c'est que le vrai miracle, c'est qu'un pécheur puisse avoir la foi. C'est que le vrai miracle, c'est que Dieu s'intéresse au pauvre type que nous sommes. Baudelaire dirait, avec ses mots, le miracle, c'est de transformer la boue en or. Bon, ben, Luther le dit de la même manière sur le plan existentiel. On ne vaut rien et on vaut tout. Et entre les deux, il y a le miracle, la grâce. Et quand on avait parlé de Luther quelques fois dans diverses séances, j'avais eu l'occasion de vous dire à quel point il était très christocentrique et même jésuscentrique. Eh bien, pour Luther, il n'y a de miracles qu'à l'époque de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les miracles n'ont plus cours. Les miracles sont un fait du passé et circonscrits à l'activité de Jésus-Christ. Ce qui est assez étonnant parce qu'on a bien vu qu'il y a des miracles aussi dans le Premier Testament. Mais il va considérer, les catholiques feront un peu pareil d'ailleurs, ils vont considérer que tous ces miracles sont en fait orientés vers l'activité de Jésus-Christ. Un peu comme cette relecture du rocher en fait, il préfigure Christ, ou c'est les prémices de Jésus-Christ.
C'est dans l'esprit de la fin de la prophétie, ou c'est dans le même esprit de la fin de la prophétie pour
Jésus ? Je ne saurais pas vous dire. Pour Calvin, les miracles appartiennent aussi à l'Église primitive. Donc, il ne veut plus en entendre parler. Mais, et c'est là hein, vraiment que je vous encourage à distinguer Calvin des calvinistes, c'est qu'ensuite, ses successeurs vont retourner à une théologie médiévale. Et vont, je pense que c'est pour défendre un Dieu tout-puissant, vont avoir une définition du miracle qui est assez intéressante, parce qu'aujourd'hui, quand on entend l'expression, ça fait sourire. Il dit le miracle, c'est ce qui est contre nature. C'est ce qui déborde la nature. Allez dire aujourd'hui à quelques catholiques conservateurs que le miracle, c'est ce qui est contre nature, ça paraît un peu agacé. Et le 18e va faire voler en éclats une vision surnaturelle ou supranaturaliste du miracle. La critique historique va être extrêmement agressive, avec Hume en particulier, David Hume. Il dit « Le récit de miracle ne peut être reçu pour véridique qu'à une condition, ne le notez pas, c'est que le miracle soit raconté par une personne infaillible. » Vous voyez, c'est un peu le truc impossible. Nous sommes tous faillibles. On est incapable de pouvoir raconter une histoire à l'échelle 1-1. Il y a toujours du décalage, il y a toujours du déchet. On transforme, on interprète. Et au fond, David Hume, et puis beaucoup de théologiens de l'époque vont dire, mais d'un point de vue historique, il n'y a aucun miracle. Les miracles ne sont que des éléments de mémoire qui sont rapportés. Et en étudiant cela un petit peu, là pour vous ce soir, je me suis dit, mais en fait, par rapport à l'idée qu'on se fait des miracles, c'est-à-dire des guérisons surnaturelles, etc., moi je n'ai eu que des récits de guérisons surnaturelles. Je n'ai eu que des récits de miracles. Je n'ai jamais été confronté à un miracle, alors, au sens un peu populaire du terme. Moi aussi, hein, par exemple, je trouve qu'avoir les yeux en face des trous, ça relève du miracle, hein, le miracle de la vie comme ça. Mais quelqu'un qui serait guéri par une imposition des mains ou quelque chose comme ça sur des pathologies lourdes, etc., moi, à titre personnel, j'en ai jamais vu. On m'en a raconté beaucoup. Donc, voilà, ça corrobore cette idée selon laquelle les miracles sont finalement non pas des faits d'observation, mais des faits de mémoire. Et d'un point de vue théologique, ça relève de l'apologétique. L'apologétique, c'est tout ce que l'on met en place pour convaincre les non-croyants. Et donc, tout en partageant cette idée que les miracles, ça convainc mal, il y a quand même une idée selon laquelle les miracles sont suffisamment puissants pour convaincre les gens, et qu'on va attraper les conversions avec des miracles. Et la théologie catholique au XXe siècle, avant Vatican II, va beaucoup fonctionner là-dessus. Et donc, David Hume va dire... en fait, n'arrive que ce qui peut arriver. Et donc, les récits de miracles sont des récits mythiques. Et vous voyez qu'au XXe siècle, avec quelqu'un comme André Gutmann, on va aller sur « il faut donc démythologiser les récits de miracles ». Les miracles sont relégués aux récits de mythes. Aucun n'est observé directement. Ce sont des objets textuels. Rousseau. Premier philosophe protestant à développer l'idée de liberté de conscience, va écrire « Ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre sera aux pieds de Jésus. » C'est une citation. « Ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre sera aux pieds de Jésus. » Alors, je vous disais que il y a à la fois cette tendance des Lumières à démythologiser, et puis il y a aussi les successeurs de Calvin qui vont être un peu sur la branche supranaturaliste. Pour vous donner deux noms de l'orthodoxie protestante, supranaturaliste qui va défendre une conception littérale du miracle, et du coup ça va me permettre de parler de votre expérience. Il y a Suskind, au XVIIIe siècle, qui définit le miracle comme, je cite, mais pour ne pas définition, un phénomène qui appartient au monde sensible, mais fondé dans une réalité elle-même suprasensible et à laquelle il faut le rapporter. Autrement dit, c'est l'idée selon laquelle il y a deux mondes. Il y a notre monde, avec les lois physiques, et il y a le monde de Dieu. Et de temps en temps, Dieu se penche sur notre monde, intervient, bouscule les lois de la physique et éventuellement arrange les situations telles qu'il imagine qu'il faille les arranger. Et pour Roth, qui est plutôt au XVIIIe siècle, R-O-T-H-E, il dit que les miracles sont un élément constitutif de la révélation. C'est extrêmement compréhensible par les textes que je vais vous passer et qui sont des textes de dictionnaires de théologie catholique. En fait, pourquoi les catholiques et les protestants orthodoxes vont-ils développer une approche surnaturelle du miracle? C'est pour lutter contre une religion naturelle. C'est-à-dire, c'est pour lutter contre une religion dont le moteur principal serait la raison, la rationalité. C'est pour dire qu'il faut qu'il y ait de l'hétéronomie. C'est pas simplement l'homme qui devient autonome, c'est l'homme qui est rendu libre par une divinité. Donc pour garder cet écart entre l'homme pécheur et le Dieu Tout-Puissant, il faut maintenir cette dépendance totale. Et alors, voici un texte de 1926, donc vous voyez, c'est quand même assez proche de nous, mais c'est avant Vatican II. Le miracle est un argument en faveur de la religion fondée par Jésus-Christ et représentée par l'Église catholique, donc la religion. Cet argument repose sur les deux propositions suivantes. Des faits extérieurs et discernables peuvent se produire, qui trahissent une intervention spéciale de Dieu en ce monde et sa volonté de garantir certaines doctrines religieuses. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout pour rendre les hommes plus humains, c'est pour défendre le dépôt de la foi catholique. Les miracles sont là pour sauver l'Église. Deuxième point, des faits de ce genre se sont produits en faveur des doctrines enseignées par la tradition judéo-chrétienne catholique, et jamais en faveur d'un enseignement contraire. C'est-à-dire que seuls ceux qui sont soumis au magistère, donc à la congrégation de la doctrine pour la foi, sont capables de miracles. Le reste, c'est du démoniaque, mais ce n'est pas du vrai miracle, finalement. Vous imaginez, Jésus, il se refait crucifier copieusement. Hein. Donc ça, c'est le dictionnaire apologétique. Le dictionnaire de théologie catholique est pas mal dans son genre. L'étude du miracle relève de la théologie en tant que le miracle démontre la crédibilité de la révélation chrétienne. Et c'est ce que je vous disais. À la fois, on est d'accord, nous, pour dire que le miracle, c'est pas s'y convertir, et pour eux, ils vont en faire finalement un argument. C'est avec le miracle qu'on va pouvoir obtenir ces conversions ou qu'on va pouvoir séduire. Ce canon, c'est le canon du droit canon, nous intéresse immédiatement car il trace aux théologiens la marche à suivre dans l'exposé de la doctrine catholique du miracle. Citation, « Si quelqu'un dit que les miracles ne sauraient aucunement être possibles et qu'en conséquence les récits qu'on en fait, même s'ils sont consignés dans la Sainte Écriture, doivent être relégués parmi les fables et les mythes, ou que les miracles ne peuvent être connus avec certitude et que l'origine divine de la religion chrétienne ne peut trouver en eux une démonstration probante, qu'ils soient anathèmes. » Donc vous voyez, là on est en 1929, donc il y a eu effectivement les Lumières, 18e siècle, il y a eu le protestantisme libéral, l'exégèse historico-critique au 19e, réponse contre les modernistes, ça. Celui qui n'a pas une foi aveugle, qu'on le nomme anathème. Anathème, ben, ça veut dire que vous êtes disqualifié, en fait.
Jeté hors de l'Église.
Voilà. La conséquence directe, c'est que vous ne pouvez plus communier. Et conjointement à cela, le protestantisme va développer une théologie du miracle qui se fait en parallèle avec l'évolution de la philosophie du langage avec la question du signe. Bon, je ne vous fais pas Saussure et tout ça, mais un signe, c'est insignifiant plus insignifié. C'est un fait plus du sens. Et c'est là que je vais essayer de répondre à votre question sur... je vais prendre un autre exemple. Récemment, il y a peut-être 15 ans, deux ethnies en Afrique se sont un peu chamaillées, ça finit aussi au tribunal. L'une disait de l'autre que les hommes leur volaient leur sexe. Hein, quelqu'un marchait dans la rue, il croisait quelqu'un de l'autre ethnie, et après il allait poser plainte au commissariat parce que cet homme lui avait volé son sexe, sans contact physique, rien. Et comment on s'en sort ? On peut effectivement, quand on est magistrat, on est un peu embarrassé. Eh bien, c'est là qu'il faut être herméneute. En fait, c'est une question d'interprétation des textes. Le miracle, ici, est un objet textuel. Qu'est-ce qui était en jeu ? C'est que l'ethnie qui volait les sexes, masculin adverse, était une ethnie où la culture avait beaucoup misé sur l'éducation. Et en fait, les hommes de cette ethnie étaient plus éduqués, disons. Ils avaient donc beaucoup plus d'attrait auprès de la gente féminine de l'autre ethnie. Et en fait, ce qui était dit, c'était que ces gens nous volaient nos femmes. C'est qu'on n'arrivait plus à séduire nos propres femmes parce que nous étions moins séduisants que les autres. Et donc, une traduction de cela, c'était « ils nous volent notre sexe, on devient impuissant, ils nous castrent », au sens symbolique du terme. Donc, en soi, c'est miraculeux, mais je dirais que c'est un acte de sorcellerie. Ce n'est pas un acte magique. L'acte magique, bon, je ne suis pas super pro en magie, mais Durkheim, lorsqu'il en parle, il parle du caractère mécanique et qui peut être répété de la magie. Hein, c'est pas la prestidigitation, etc. Un rite est magique en ce qu'il accomplit ce qu'il dit et qu'il peut être répété. On fait tous de la magie de ce point de vue-là. Donc c'est pas l'histoire de magie blanche ou de magie noire. Moi j'avais un peu étudié ça, c'était sur le Cameroun, avec les Nganga qui neutralisent ce que font les sorciers. Mais en fait, c'est à nouveau de la question de l'interprétation. Il y a un problème dans une famille, et en fait, c'est un travail de restauration d'une harmonie, etc. Bon, avec effectivement des symboles, des signes qui nous font sourire, mais qui sont en fait chargés de sens. Et donc, ces exorcismes sont ce que nous, on appellerait une psychanalyse, mais avec d'autres outils que la psychanalyse freudienne ou lacanienne, par exemple. Mais en fait, ce sont des méthodologies très, très semblables. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment plusieurs civilisations qui n'ont pas de contact entre elles font du miracle le même usage, c'est-à-dire un objet de signification. Et qu'est-ce que le miracle dans la Bible, sinon cela ? Tu aurais pu utiliser l'exemple de Jésus qui marche sur les eaux. Ça t'arrive assez souvent de dire que Jésus ne fait pas ça pour faire le mariole. Mais précisément, c'est que le miracle n'est pas envisagé pour prouver que Dieu est Dieu ou que Jésus est Christ. Il est juste là pour renforcer la prédication de Jésus, pour qu'il y ait une sorte de cohérence. Oui. Le miracle ne va pas de soi en lui-même, le miracle est porteur de sens. Il rend du sens disponible. On pourrait dire autre chose éventuellement avec Schleiermacher. On ne peut pas ne pas parler de Schleiermacher qui introduit l'herméneutique quand même. Donc il introduit l'interprétation du signe et donc du miracle. Il dit... Le miracle, c'est une manière de nous rendre sensibles à l'infini. Hein, on a pu dire que le miracle, c'est ce qui excédait, donc c'est ce qui excède notre finitude, et donc c'est ce qui nous ouvre sur l'infini. Et si vous tournez la page, il y a un texte de Bernard Raymond, je vais peut-être vous en lire quelques phrases, mais il y a tout à la fin une petite phrase de Raphaël Picon. Dans les évangiles, le surnaturel, la démesure, le merveilleux, tout ce qui bien souvent gêne nos sages sensibilités, nos esprits timorés, sont autant de ruses pour dire la vie en excès, la vie malgré tout. Donc, vous voyez, ce sont des stratégies textuelles pour nous sensibiliser à plus que ce que nos sens nous permettent d'apprécier. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur le surnaturel, quand on disait « l'amour est capable de surnaturel ». Vous voyez, une interaction positive entre deux personnes est capable d'accomplir plus que la somme de ce que chacun aurait fait. Il y a une conjugaison qui nous permet d'atteindre des résultats supérieurs à la somme de ce que chacun est capable de son côté. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de surnaturel. Pour ne pas vous laisser simplement sur une vision pré-Vatican II du catholicisme, je vous donne quelques échos de ce que dit l'exégète catholique John Mayer, qui, parce qu'il est exégète et forcément un peu protestant. Hein. Un jugement positif affirmant qu'un miracle a eu lieu, un jugement positif disant qu'un miracle a eu lieu, va au-delà de ce que peut dire un historien, prenant position précisément en tant qu'historien. Donc vous voyez, ça rejoint un peu votre idée de la réalité et du sens, peut-être. Moi, je dirais de la réalité et du réel. C'est-à-dire que on peut dire que le miracle est de l'ordre de la réalité, donc c'est une expression du réel. Mais ce n'est pas le réel. Ça nous renvoie à autre chose, mais ce n'est pas autre chose. C'est comme un panneau indicateur, ou le fameux doigt qui indique la lune. L'idiot regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Le mécréant regarde le miracle au lieu d'en regarder l'évangile qui est derrière, par exemple. Et Joseph Moins, il dit « Les miracles ne sont pas là pour assurer le succès de la prédication. » C'est pour boucler la boucle avec ce qu'on disait dès le départ. Je le cite, « Dieu n'a pas cherché à assurer le triomphe de son envoyé par des moyens de puissance. » Ça, c'est dans « Dieu qui vient à l'homme ». Donc, ceci pour dire que l'approche symbolique du miracle est quelque chose qui a été assez bien partagé et qui l'est encore plus de nos jours, en bénéficiant de tout ce que la science a pu nous apporter aussi. Et si les miracles sont prédication, les miracles de Jésus sont la prédication d'un divin qui s'intéresse aux plus faibles, aux blessés. Et du coup, ils rendent effective la prédication que Jésus proclame. On pourrait presque dire que les miracles sont soumis à la prédication. Les miracles n'apportent rien de plus que la prédication. Ils sont une prédication. C'est une rhétorique parmi d'autres. On n'est pas tous sensibles aux mêmes rhétoriques. Certains apprécient les discours très analytiques, d'autres sont plus sensibles aux narrations, par exemple. Certains vont être assez visuels, etc. Bon, eh bien voilà, le texte biblique est une bibliothèque qui s'efforce de pouvoir rendre service au lecteur. Et pour rendre service au lecteur, il prend soin du lecteur, de ce qu'il est, de ce qu'il est capable, et du coup, il lui offre cette possibilité aussi d'accéder au réel. Oui.
S'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer pourquoi Jésus a dit vous ferez des miracles et des guérisons plus grands que moi. Je voulais l'explication de ce récit.
Oui, alors vous avez une prédication de Laurent Gagnebin qui a été faite il y a 15 jours dessus, elle est sur le site de l'oratoire ou sur YouTube. Il y a deux choses. À mon avis, en disant cela, il ne s'intéresse pas tant aux miracles, d'ailleurs c'est des œuvres, plus que des miracles, qu'à la liberté individuelle, à la capacité de l'homme à non pas simplement suivre Jésus, mais à suivre sa propre voie. Et donc, faire des œuvres plus grandes, c'est qu'on ne se contente pas de copier Jésus, on le dépasse. Et alors, oui, oui, mais faire des miracles. Par exemple, à un moment donné, Jésus rencontre, va dans un village et on dit qu'il y a 10 lépreux. Les lépreux appellent Jésus en disant « Aie pitié de nous » et Jésus leur dit « Allez vous faire voir chez les prêtres ». Ils y vont. Et chemin faisant, ils se rendent compte qu'ils sont purifiés. Il y en a un, le Samaritain, qui revient vers Jésus pour lui dire merci, etc. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il leur a dit d'aller se faire voir chez les prêtres. Ce qui est, en fait, dans le Lévitique, la dernière étape pour la purification, pour être réintégré. Parce que quand on est lépreux, on est mis en quarantaine. Donc il faut un rituel de réintégration. Mais on va voir les prêtres quand on a été guéri. Et que fait Jésus ? C'est en fait de constater qu'ils sont guéris, par exemple. Donc on ne peut pas dire... Enfin, moi, je ne dirais pas que Jésus est guéri. Jésus a cette qualité de repérer qu'ils sont guéris alors que tout le monde les avait enfermés dans leur qualité de lépreux. Oui, il y a des choses comme ça. Tout à l'heure, on parlait de cet aveugle guéri. Mais l'aveuglement, ce n'est pas une cécité au sens physiologique, puisque même les pharisiens disent « Ah, mais alors nous aussi, on est aveugles ». Donc moi, j'aurais une approche sur le fait que Jésus fait des miracles, mais des miracles au sens symbolique du terme. Y compris à Pâques. Moi, oui. Ah, oui. Oui, si vous voulez. Bah, c'est-à-dire que, vous voyez, quand je disais à un moment donné, les miracles de Jésus vont être le point de focalisation de tous les miracles avant et même après. Et en fait, il va même y avoir une concentration de concentration, c'est qu'on va considérer que Pâques, c'est le point de convergence de tous les miracles. Et c'est aussi la clé de compréhension de tous les miracles. Mais pour moi, enfin, disons qu'à titre personnel, j'en ai une compréhension symbolique. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si on avait pu filmer la scène, le matin de Pâques, il y aurait eu encore le corps allongé dessus, si vous voulez.
Sauf qu'il y a objectivement eu miracle, puisque... historiquement, ils avaient tout pour être désespérés, et que historiquement, quelques dizaines d'années après, ils sont d'un enthousiasme tellement communicatif qu'ils courent partout dans le bassin méditerranéen. Il s'est quand même passé quelque chose.
Ah, mais il faut être clair, hein, un miracle d'ordre symbolique est un vrai miracle. Hein.
C'est un vrai miracle. Et c'est vrai que je trouve que ce que tu disais, c'est intéressant, ça ouvre à une nouvelle vision de la réalité. Et c'est bien ça, parce que le Jésus, dans le texte même de l'Évangile, c'est pas le Jésus normal d'avant, en fait. Ils le reconnaissent pas, il passe à travers les murs, il disparaît comme ça en un clin d'œil. Donc, en fait, c'est pas simplement une réanimation pour 3 minutes ou pour 40 jours. C'est quelque chose d'une autre réalité, comme le disait Picon. Ça montre un Jésus vivant autrement que ce qu'il vivait avant.
Mais qui garde des traces.
Oui, c'est pas un retour en arrière.
Oui.
On n'annule pas l'histoire. Ça permet de pouvoir relancer l'histoire.
Exactement.
Je ne voulais pas vous faire de la théologie du process parce que je vous bassine trop avec, mais c'est exactement ce que dit la théologie du process.
Alléluia.
Ça réinjecte du possible dans une histoire qu'on pensait terminée. Et c'est exactement ça à Pâques, en fait. Enfin, Jean-Marie de Bourconnet a fait tout un dossier là-dessus dans Évangile Liberté, je ne vous fais pas trop de pub non plus, mais voilà.
Mais enfin, on peut en avoir un abonnement 3 mois gratuit si on en fait une demande. Okay.
Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec la notion d'intégration du logos en fait, dans la sacrée? En fait, si on dit que Jésus est Christ, et qu'il est donc complètement logos de ce point de vue-là, à ce moment-là, il est si pur signifiant à chaque fois qu'il agit, quoi qu'il fasse, c'est du pur sens tout le temps. Donc, en ce sens-là, le miracle tend à représenter. Que ce soit factuellement, d'ailleurs, que ce soit physiquement ou pas, en fait, ça ne change pas grand-chose, mais ça n'est que du sens tout le temps. Quel que soit les limites fractales au niveau du sphère.
Il n'y a pas d'ambiguïté, par exemple, dans ces relations interpersonnelles. Nous, on ne se comprend jamais vraiment. Mais ce n'est pas le cas là, justement.
Ouais. À la limite, c'est peu importe, quelle que soit la crédulité qu'on aurait sur la naïveté qu'on peut avoir, ou la profondeur de l'hermès, enfin, peu importe. puisque à chaque fois, de toute façon, c'est télescopique, on a toujours du sens. Mmh. Et c'est toujours signifiant. Donc,
Moi, je crois. C'est le coup de Dabar qui veut dire à la fois la parole et l'événement. C'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est vrai qu'il faut entrer aussi dans cette façon de comprendre la réalité, si vous voulez.
C'est l'heure.
Donc on laisse retourner à la maison ceux qui peut-être ont du trajet à faire, mais si certains veulent continuer à bavarder, soit entre vous, soit... c'est toujours possible de bavarder. Et donc hors... Chant, bienvenue pour la rencontre suivante. Vous avez la date sur le site internet, la feuille rose, ou pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, ce serait... Est-ce que quelqu'un la connaît ?
Le 2 novembre.
Le 2 novembre.
Décembre, c'est le 7 décembre, jour de Pearl Harbor.
Voilà, donc bon retour, merci de nous avoir rejoints pour ce bon moment.